Chers auditeurs, bonjour. Avant de reprendre le cours de notre émission sur la création et la réalisation du canal du Midi, je désire vous ramener quelques instants au château de Bonrepos. Château de Bonrepos, acheté, vous vous en souvenez, en 1651 par Pierre-Paul Riquet. Mais pourquoi ce retour en arrière ? Ben, tout simplement parce que j'ai lu récemment dans la Dépêche du Midi un article qui m'a interpellé. Un article qui évoque actuellement au château la présence de Dorothée Étiennette de Riquet. Surprise, surprise ! Mais d'abord, qui est, ou plutôt, qui était Dorothée Étiennette de Riquet de Bonrepos ? Dorothée Étiennette de Riquet est l'arrière-petite-fille de Pierre-Paul Riquet. Elle est née à Toulouse en 1744. Elle épouse le 20 septembre 1770 Jean-Louis Augustin Emmanuel de Cambon, qui devient en 1787 premier président du Parlement de Toulouse. Pendant la Terreur, elle fut sommée de livrer son mari, qui était recherché par les révolutionnaires. Dorothée refusa, elle fut arrêtée, en même temps que sa fille de 16 ans. Jugée par le tribunal révolutionnaire de Paris, elle est guillotinée le 8 Thermidor de l'an 2, c'est-à-dire le 27 juillet 1794, la veille de la mort de Robespierre. C'est son fantôme, sans tête, qui hanterait aujourd'hui le château. Depuis sa disparition, donc je vous l'ai dit, en 1794, plusieurs des différents occupants du château ont déclaré avoir vu le fantôme de Dorothée déambuler à plusieurs reprises dans la maison. Même peu avant son départ, en 2017, Odile, l'ancienne propriétaire, a confié avoir discuté avec Dorothée de nombreuses fois. Bon, laissons ce qui se passe, mais revenons, si vous le voulez bien, à Pierre-Paul Riquet. Nous nous sommes quittés lors de l'émission précédente sur une question importante. Pourquoi et comment Pierre-Paul Riquet s'est-il lancé dans un projet qui, je vous l'avais dit, paraissait insoluble ? Qui plus est, c'est un projet dans lequel il va se lancer à corps perdu, au point d'y risquer sa fortune et celle de ses descendants. Il se trouve qu'enfant, Pierre-Paul Riquet a assisté aux États du Languedoc, auxquels son père siège. Il a donc assisté à la présentation d'un projet de canal, justement, d'un canal des deux mers. Et cette idée l'aurait alors suivi, dit-on, tout au long de sa vie professionnelle, comme une obsession. C'est à l'âge de 58 ans, alors que l'espérance de vie moyenne de l'époque est de 40 ans, que très riche, sa carrière achevée, on pourrait dire à la retraite, eh bien c'est là qu'il décide de se pencher de plus près sur le projet. Tous les projets présentés jusque-là ne parvenaient pas à résoudre le problème essentiel, c'est-à-dire l'approvisionnement en eau du canal. Et c'est là le génie de Riquet, il va résoudre cette difficulté. Peut-être est-ce au cours de l'une de ses nombreuses randonnées dans la montagne noire environnante, accompagné d'un sourcier, qu'il a l'idée d'utiliser les eaux de rivière qui sillonnent les pentes de la montagne noire. Il veut les réunir pour les amener à Naurouze. Et son idée géniale, il ne va pas aller chercher l'eau des Pyrénées, qu'il sait impossible de remonter pour franchir le seuil de Naurouze, mais il fera au contraire descendre vers Naurouze les eaux de la montagne noire et du Sort, la rivière qui passe près de Revel. Et il va imaginer un système d'irrigation très ingénieux. Il a l'idée de récupérer et de stocker les eaux de la montagne noire dans des barrages réservoirs, puis de là, de les acheminer, enfin, ou si vous préférez, de les descendre vers le seuil de Naurouze grâce à une rigole. Cette rigole est appelée la rigole de la plaine ou également la rigole du canal du Midi. Mais en fait, qu'est-ce qu'on appelle rigole ? Eh bien, une rigole, dans ce cas-là, c'est un canal qui amènera l'eau dont on a besoin vers le canal du Midi et vers nos rouges. Cette rigole, la rigole de la plaine, est longue de 38 km. La prise d'eau débute au pont Crouzé, sur la commune de Sorèze, à 272 mètres d'altitude. Elle arrive au seuil de Neurouze, 38 km plus loin, située à 189 mètres d'altitude. Le pont Crouzé est le point culminant du canal. Il est en fait plus haut de 83 mètres par rapport au niveau du seuil de Neurouze. Le point de partage des eaux est, comme on le sait depuis longtemps, situé au seuil de Neurouze. L'eau du canal va s'écouler de part et d'autre du seuil de Neurouze. Elle va descendre soit vers l'océan Atlantique et Toulouse d'abord, soit vers la mer Méditerranée. En 1658, Riquet, après avoir étudié en détail l'hydrographie de la Montagne Noire, a acquis la totalité, il a acheté la totalité des droits de l'eau de la seigneurie de Revel. Il imagine que l'eau du Sort, sur la commune de Sorèze, sera la principale alimentation en eau du canal du Midi. D'autre part, d'autres rivières de la Montagne Noire feront partie également du programme d'alimentation. Pour stocker l'eau des rivières, eh bien, il a une idée bonne, une très bonne idée. Il envisage la création de trois bassins. Premièrement, le réservoir du Lampy Vieux. C'est le réservoir le plus élevé du canal du Midi. Deuxième réservoir, un bassin portuaire hexagonal qu'il va situer au seuil de Neurouze. Et ce bassin comportera deux écluses. Une écluse que nous appellerons l'écluse de l'océan, dirigée vers Toulouse, et d'un autre côté, l'écluse de la Méditerranée, dirigée, elle, vers le bassin de Thau. Enfin, troisième bassin, ça sera la retenue de Saint-Ferréol, située au-dessus de Revel. Ce bassin étant alimenté, lui, par une petite rivière appelée le Lodeau. En 1664, pendant l'expertise du projet demandé par les États du Languedoc, il met en pratique, à ses frais, son idée de façon expérimentale. Il fait construire une rigole d'essai déviant l'eau du Sort jusqu'au seuil de Neurouze. Et l'expérience est positive. La rigole de la plaine, terminée en 1665, prouve qu'il est bien possible d'amener de l'eau jusqu'au point le plus élevé du parcours. Les experts envoyés par le roi sont convaincus. Et maintenant, Louis XIV sait que la construction du canal est techniquement réalisable. Là, voilà pour le projet technique, mais vous vous en doutez, reste un autre problème, c'est le financement de ce projet. Pour que le roi accepte de mener à bien le projet, Riquet doit mettre dans la balance sa fortune et sa caution financière. Et c'est ce qu'il va faire. Riquet, comme je vous l'ai dit, a prouvé par la rigole de la plaine que son projet était réalisable. Et donc, le seuil de Neurouze n'est plus un obstacle infranchissable. Mais par contre, Riquet est resté très imprécis sur le canal, le tracé du canal. À ce moment-là, le tracé n'a pas été arrêté définitivement. Et il reste à le déterminer. Seules les directions sont connues. Il est assez vaguement décidé que le tracé pourra être modifié par l'entrepreneur en fonction des difficultés rencontrées et au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Mais enfin, c'est quand même un peu léger pour ce projet. Vers le versant atlantique, soit vers Toulouse, il propose plusieurs trajets, plusieurs tracés. L'un qui passerait par Castres et Revel, et l'autre qui utiliserait la rivière le Giroux avant d'aller dans la Garonne. Versant Méditerranée, là, le tracé n'est pas non plus fixé. Et déjà, on peut se poser la question, où a-t-il prévu l'arrivée du canal côté Méditerranée ? D'abord, envisagé à Narbonne, puis finalement prévu et fixé à Sète. Je vous rappelle que Riquet n'a aucune formation technique. Mais par contre, heureusement, il pratique de façon régulière l'observation du terrain et l'expérimentation. Bon, il ne faut pas non plus oublier qu'à l'époque, les sciences appliquées et les techniques hydrauliques sont loin d'être comme aujourd'hui maîtrisées. Malgré tout, Riquet a une démarche scientifique, car il effectue systématiquement des mesures de débit et des calculs de volume. Il va même jusqu'à construire dans sa propriété de Bon Repos une maquette du canal du Midi avec des écluses, des tunnels, des épanchoirs, et en respectant les pentes et en alimentant l'ensemble en eau. Alors, je vous rappelle qu'un épanchoir est un ouvrage d'art par lequel le trop-plein d'eau du canal peut s'écouler. Un exemple, lorsque le bassin de Saint-Ferréol est plein, les eaux s'épanchent par les épanchoirs en cascade. Cette maquette dont je vous ai parlé est toujours visible dans le parc de son château à Bon Repos Riquet. Ce parc, d'ailleurs, est actuellement entretenu par des bénévoles. Par ailleurs, Riquet a eu la sagesse de s'entourer d'excellents techniciens, comme par exemple Hector Poutoroux, Pierre Capmasque et Fontainier, ou François André Aussy, géomètre et cartographe. D'ailleurs, c'est André Aussy qui secondera Riquet tout au long de la construction. Et même, après la mort de Riquet, c'est lui qui mènera à bien la fin des travaux. Il faut dire aussi maintenant quelques mots sur la situation politique et économique du Languedoc en ce milieu du XVIIe siècle. Oh, le contexte est difficile. Le prix des céréales baisse beaucoup et en 1660, la production de vin a chuté. C'est en plus une région qui a subi de nombreux troubles lors des conflits religieux et pendant la Fronde. Il est devenu très difficile de mettre en place une politique régionale et surtout d'instaurer des taxes comme la gabelle. Pour Colbert, Pierre-Paul Riquet tombe à point. D'une part, Riquet va mettre en place la gabelle et il va construire le canal du Midi. Ce canal, au-delà des avantages commerciaux, aura aussi une valeur stratégique des plus importantes. Cela va d'une part permettre de créer une route commerciale à travers le Languedoc, et en plus, cela va permettre de contourner Gibraltar. Et plutôt de, pas de contourner, je dirais même d'éviter Gibraltar. La région du Languedoc produit du blé, des draps, de la soie, du sel, mais a beaucoup de mal à les commercialiser, par manque de route. Le Minervois produit du vin que les viticulteurs ont du mal à exporter. Colbert, à travers le canal, espère justement diffuser ses matières premières dans tout le Midi et ainsi il pourra renforcer le pouvoir royal. Mais également, cette voie désenclavera Toulouse et sa région. Et c'est pour toutes ces raisons que Colbert autorise le projet après bien sûr l'accord des experts. Il est publié en octobre 1666 un édit royal qui, à la lecture, semble un peu bancal. Mais que dit cet édit ? Eh bien, l'édit décrète déjà le début des travaux au 1er janvier 1667. Le projet bénéficie de l'appui de l'ingénieur en fortification et hydraulicien, le chevalier de Clerville, qui a pesé, lui, beaucoup de son influence sur Colbert. L'édit royal est extrêmement important. Il précise plusieurs choses. D'abord, premièrement, il autorise la construction du canal. Deuxièmement, il autorise sa mise en adjudication. Et troisièmement, il attribue à Pierre-Paul Riquet et à ses descendants justement la gestion du canal. Il donne des droits d'expropriation à Riquet, il autorise la possibilité de créer des moulins, des entrepôts, des habitations pour le fonctionnement du canal. En gros, ce projet formera un fief exempt d'impôts sur lequel les propriétaires auront les droits de pêche et de chasse. La volonté du roi dans cet édit est le suivant. En cas de problème, il se défaussera totalement des responsabilités de l'État. Et en ce qui concerne la continuité du fonctionnement du canal, elle sera de la responsabilité du concessionnaire et non de l'État. En fait, le roi se défausse. Nous voici arrivés, chers auditeurs, à un moment clé de cette belle aventure. Durant des siècles, le projet d'un canal permettant de joindre la Méditerranée à l'océan Atlantique a fait rêver des gens aussi différents qu'Auguste ou Néron, Charlemagne, François Ier ou Henri IV, jusqu'à Louis XIV. Et voilà que grâce à Pierre-Paul Riquet, ce rêve va peut-être pouvoir se réaliser. Eh bien, c'est ce que nous verrons lors de la prochaine émission d'Historia, et je vous dis à très bientôt.